17h sur Radio Orient. Bonsoir à tous, votre rendez-vous d'information avec Loïc Barrière. Au sommaire de ce point d'actualité, Israël a frappé le cœur de Beyrouth dans la matinée. Bilan 12 morts et une quarantaine de blessés. 968 personnes ont été tuées depuis le 2 mars. Le Liban fait face à plusieurs défis. Analyse du politologue Ziad Majed dans le dossier du jour. L'Iran a organisé les funérailles d'Ali Larijani, l'homme fort du régime iranien, tué hier par Israël. Et puis un important site gazier en Iran a été frappé par les États-Unis et Israël. En France, c'est en fin d'après-midi que sera annoncée la date de l'Eid el-Fitr à l'issue du mois de Ramadan. Une annonce à suivre tout à l'heure sur Radio Orient. Enfin, avant le second tour des municipales, Emmanuel Macron met en garde contre les arrangements des partis avec les extrêmes des deux bords. Les frappes israéliennes ce matin contre 3 quartiers du centre de Beyrouth ont fait 12 morts et 41 blessés. Des attaques qui ont provoqué un vent de panique dans ce secteur densément peuplé. Lors de cette attaque, un responsable de la télévision de Hezbollah, El Manar, a été tué. Dans le sud du Liban, une frappe a tué 2 personnes dans une voiture dans le centre de Saïda. Depuis le 2 mars, le bilan des victimes au Liban est de 968 morts et près de 2400 blessés. Selon L'Orient Le Jour, le chef de la diplomatie française est attendu demain à Beyrouth. Près de 120 000 Syriens réfugiés au Liban sont rentrés dans leur pays depuis le début des frappes israéliennes contre le Liban. C'est ce qu'a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations. Au 19e jour de la guerre au Moyen-Orient, le président iranien confirme la mort de son ministre du renseignement, Esmaïl Khatib, tué dans une frappe israélienne hier. Ce mercredi a été marqué par les funérailles d'Ali Larijani, l'un des hommes forts de la République islamique, tué lui aussi hier. Une frappe menée par Israël et les États-Unis a visé un important site gazier en Iran. Il s'agit du site South Pars qui fournit 70% du gaz naturel consommé en Iran. Un bombardement condamné par les Émirats Arabes Unis, c'est ce qu'a annoncé l'agence de presse émiratie. Aux États-Unis, le chef de la lutte antiterroriste démissionne en raison de la guerre en Iran. Dans une lettre à Donald Trump, Joseph Kent affirme que l'Iran ne représentait aucune menace imminente pour les États-Unis. Selon lui, Washington a commencé cette guerre en raison de la pression exercée par Israël. Avant le second tour des municipales en France dimanche, Emmanuel Macron a mis en garde en Conseil des ministres contre les arrangements des partis avec les extrêmes des deux bords. Cité par la porte-parole du gouvernement, le chef de l'État estime que ces extrêmes demeurent dangereux pour la République. À Paris, Rachida Dati se retrouve seule à droite et espère la victoire. Après le retrait de Sarah Knafo et l'alliance avec la liste de Pierre-Yves Bournazel, qui ne sera pas candidat lui-même, après la porte-parole d'Emmanuel Grégoire hier soir, entretien à 20h sur Radio Orient avec une proche de Rachida Dati, Samia Badat Karam, première adjointe au maire du 16e arrondissement. Enfin, toujours en France, c'est tout à l'heure que sera annoncé la date de l'Aïd el-Fitr à l'issue du mois de Ramadan. La grande mosquée de Paris réunit sa commission religieuse à 17h30. Une annonce que vous pourrez suivre bien sûr sur Radio Orient et nos réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Dans quelques instants, le dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient. Place au dossier du jour. Les autorités iraniennes ont confirmé la mort d'Ali Larijani, le chef de la sécurité iranien, dont les funérailles ont eu lieu ce mercredi. Avec son décès, c'est un maillon essentiel de l'appareil d'État iranien qui disparaît. Marc-Aurel Barrez nous rappelle son parcours.
Le sang pur d'Ali Larijani et des autres martyrs bien-aimés seront vengés. C'est ce qu'a affirmé le commandant de l'armée iranienne après la mort du responsable de la sécurité. Cette perte est majeure pour la République islamique. En effet, M. Larijani était devenu une personnalité clé du pouvoir iranien, l'une des figures de proue même de la contre-offensive militaire. Vendredi dernier, on l'avait vu défier les bombardements israélo-américains en participant à une manifestation en pleine rue à Téhéran. Un homme longtemps resté dans l'ombre, dont le rôle avait changé depuis la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. D'après un responsable israélien, il était devenu le dirigeant de facto du régime. Toujours selon cette source israélienne, même avant cela, Ali Larijani était considéré comme celui qui prenait les décisions et tirait les ficelles. À la tête du Conseil suprême de la sécurité nationale, ce haut dignitaire iranien était au cœur de la politique nucléaire de l'Iran. À l'âge de 68 ans, il avait derrière lui une longue carrière au sein de l'armée et du Parlement. C'était aussi un diplomate bien connu des chancelleries occidentales. Il était considéré comme un tacticien, pragmatique, sans être pour autant un réformateur. Entre 2005 et 2007, c'était lui le principal négociateur sur le nucléaire iranien face à d'autres pays, dont l'Allemagne et la France. Plus récemment, il avait été sanctionné par Washington, car considéré comme l'un des artisans de la répression sanglante des manifestations, les mêmes manifestations massives qui avaient touché l'Iran en janvier dernier.
Merci Marc-Aurel Barrez. 1 million de déplacés, 968 morts. Le Hezbollah soutient l'Iran dans sa guerre contre Israël. Une guerre dont ne veut pas le gouvernement libanais, qui a demandé pour la première fois à négocier directement avec Israël pour mettre fin au conflit. Pour le politologue Ziad Majed, le Liban est confronté à au moins 3 défis.
Le Liban fait face aujourd'hui à 3 grands défis. Il y a d'un côté le défi de la guerre israélienne qui ravage le sud du pays, la banlieue sud de Beyrouth et certaines régions de la Beka, avec des centaines de personnes tuées et presque 1 million de déplacés internes, créant ainsi une crise humanitaire terrible dans un pays qui est toujours sous le choc d'une série de problèmes économiques, d'effondrement du système bancaire. Donc il y a ce premier défi. Il y a un autre défi qui est par rapport au clivage politique interne entre les opposants à Hezbollah et la base de soutien de Hezbollah, sachant que Hezbollah a décidé de rejoindre l'Iran dans son effort militaire face à la guerre israélo-américaine, ce que certains Libanais considèrent comme étant une politique qui a embarqué le Liban, qui lui a imposé une guerre avec Israël. De l'autre côté, les soutiens de Hezbollah évoquent le fait que les Israéliens n'ont jamais respecté le cessez-le-feu avec le Liban, qu'il y a des territoires toujours occupés. Donc ils essayent de relativiser la responsabilité ou de la rendre plutôt libanaise que iranienne en tant que choix de rejoindre cette guerre. Donc ce deuxième défi risque d'avoir aussi des implications au niveau de la scène politique libanaise, de la sociologie politique libanaise. Et puis, troisièmement, comment arrêter cette guerre ? Même si on dépasse le clivage politique et les discussions et les débats sur la responsabilité de Hezbollah, il faut aujourd'hui arrêter cette guerre qui détruit le pays et qui aura des conséquences à long terme aussi, si jamais il y a une occupation militaire israélienne et si jamais les déplacés ne pourront pas revenir chez eux. Comment pouvoir gérer tout cela? Comment imposer aux Israéliens un cessez-le-feu? Quel genre de négociations auront lieu? Qui seront les acteurs? Il me semble que nous sommes loin encore d'une gestion ou d'une sortie de cette guerre dévastatrice. Non, en fait, il est normal qu'avec cette nouvelle guerre qui se déroule aujourd'hui, qui déplace plus d'un million de Libanais, et avec des déclarations aussi qui menacent de ne plus permettre aux résidents et aux habitants, aux enfants du sud Liban de rentrer chez eux un jour, il est normal que la diplomatie libanaise tente de trouver des solutions, de négocier, d'appeler la communauté internationale à faire pression sur les Israéliens pour un cessez-le-feu, afin qu'une négociation politique puisse avoir lieu. Et cette négociation, les Libanais ont dit qu'ils sont prêts à l'entamer sans tabou et dans un cadre de droit international.
Le politologue Ziad Majed au micro de Marc-Aurel Barrez. Enfin, nous revenons sur ce coup de théâtre dans le football africain. Le Maroc est donc sacré champion d'Afrique. 2 mois après la finale, l'opposant au Sénégal, le Maroc avait déposé un recours devant la Confédération africaine de football en raison d'incidents impliquant les joueurs sénégalais. Nous faisons le point avec vous, Salma Dakhlaoui.
Tout à fait, Loïc, le football africain continue de faire parler de lui. Mais rappelons d'abord ce qui s'était passé le 18 janvier dernier à Rabat. Le Sénégal s'impose sur le terrain face au Maroc, 1-0 après prolongation, au terme d'une finale très tendue. Mais la rencontre bascule en fin de match, après un pénalty accordé au Maroc. Les joueurs sénégalais quittent la pelouse pendant plusieurs minutes pour protester. Ils finissent par revenir, le pénalty est manqué et le Sénégal inscrit ensuite le but décisif en prolongation et décroche le titre. Dans les jours qui suivent, la Confédération africaine de football prononce déjà des sanctions disciplinaires contre les deux équipes pour les incidents survenus pendant le match. Mais hier, 2 mois plus tard, revirement total de situation, le jury d'appel de la Confédération africaine de football estime que le départ du terrain des Sénégalais constitue une infraction grave au règlement. Résultat, le Sénégal est déclaré forfait et voit son titre de champion d'Afrique lui être retiré et la victoire est attribuée au Maroc sur tapis vert, 3-0. Les Lions de l'Atlas deviennent donc officiellement champions d'Afrique, une décision inédite qui provoque incompréhension et colère côté sénégalais, la fédération sénégalaise ayant annoncé un recours.
Merci Salma Dakhlaoui. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci à Mohamed Bizri, à la technique. Bonne suite de programmes sur Radio Orient.